Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi 31 octobre 2020. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h. Au programme, nous parlerons, nous irons direction l'année 1512 avec la chapelle Sistine dans notre rubrique rétro. Et nous parlerons d'une nouvelle pépite de l'athlétisme français, Sacha Zaya. Il est franco-australien, mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on débute avec les grands titres de l'actualité. Certaines frontières intérieures vont être réouvertes en Australie, notamment avec l'Australie occidentale. Le Queensland fait toujours le bras de fer, par contre, avec Sydney, le Greater Sydney. Les suites de l'enquête sur l'attaque terroriste à Nice, un deuxième homme a été interpellé. Et J-3 pour les élections américaines. Et tout d'abord, on commence ce journal avec le point sur le coronavirus en Australie. Le Victoria a enregistré un nouveau cas de Covid-19 dans ces dernières 24 heures avec aucun nouveau décès. La moyenne sur 14 jours de l'État est en baisse à 2,4, deux cas ayant une source inconnue. Cela survient donc après que, à Melbourne, le premier week-end de restrictions assouplies a débuté aujourd'hui. L'agent de sécurité en chef du Victoria, Brett Sutton, exhorte les gens à continuer à se conformer aux règles de sécurité contre le Covid et donc à rester prudents. De l'autre côté du pays, je vous le disais en titre, la frontière entre l'Australie occidentale et les autres États australiens sera remplacée par un, entre guillemets, arrangement frontalier. Une moyenne sur 14 jours de moins de 5 cas de transmission communautaire dans les États et les territoires sera nécessaire avant de passer au nouveau contrôle. C'est en tout cas ce que chaque juridiction respecte actuellement. Le Premier ministre de WA, Mark Gowen, a déclaré que les voyageurs de Tasmanie, d'Australie du Sud, du Territoire du Nord, du Queensland et de l'ACT seront considérés comme à très faible risque, et seront autorisés à entrer dans le WA sans mise en quarantaine. Il dit qu'ils seront soumis à des contrôles, y compris un examen de santé, une vérification de la température à l'arrivée, ainsi que le fait de remplir une déclaration indiquant dans quels endroits ils se sont rendus au cours des 14 jours précédents en déclarant qu'ils n'ont pas de symptômes. On écoute le premier de l'Australie occidentale, Mark McGowan.
All travellers from states and territories that are deemed low risk will also be permitted to enter WA. However, they will also be required to take a COVID-19 test at the airport COVID clinic if deemed necessary by a health clinician, self-quarantine for 14 days in a suitable premise, and present for a COVID-19 test on day 11.
Voilà donc pour le WA. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a défendu sa décision de garder les frontières de l'État fermées aux habitants du Victoria et de Greater Sydney. Les résidents de Nouvelle-Galles du Sud, hors Greater Sydney, seront autorisés à entrer dans le Queensland pour n'importe quelle raison de leur choix à partir de mardi prochain. Mais l'administrateur en chef de la santé donc du Queensland, le docteur Janet Young, a recommandé que ce privilège ne soit pas étendu aux personnes dans les 32 zones de la région locale donc de Sydney en raison des épidémies et des cas mystérieux de Covid-19. Madame Palaszczuk dit qu'elle n'a aucune excuse et elle ne s'excusera pas d'avoir suivi les conseils du Dr Young.
They are in the best interests of the people of this state and I've had to stand strong on this issue over many, many months and many, many weeks when other people kept calling for the borders to be open. And if that had happened back in July, I still firmly believe the consequences for Queensland families would have been diabolical.
Voilà donc Anastasia Palaszczuk. Les bureaux de vote d'ailleurs sont ouverts pour les élections dans l'état du Queensland, alors que les dirigeants du parti travailliste et du parti national libéral se concentrent sur les sièges marginaux dans une tentative de dernière minute pour recueillir des votes. Les deux partis proposent des visions distinctes pour l'avenir de l'état, les électeurs indécis étant appelés maintenant à maintenir le statu quo ou à soutenir une poussée pour le changement. Un électeur a déclaré à SBS News qu'elle ne prendra pas sa décision avant d'être dans l'isoloir. On l'écoute.
I'm quite excited actually because we kind of know exactly who's going to win, and I don't know who's going to win this time. So Palaszczuk's done very well on the borders, but I do think that if you look back at the economy, and it's quite interesting what Frecklington was saying. So I'm kind of like, until I walk in there, I'm not quite sure who I'm going to vote for.
13h05. Un deuxième homme a été arrêté après l'attaque terroriste à Nice hier. Il a été placé en garde à vue hier soir. Je vous rappelle que cette attaque a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice. Ah donc, l'enquête avance et on connaît désormais l'identité des victimes. Sylvie Coffi.
Les victimes sont 3 paroissiens qui étaient venus prier dans cette église. Et l'on en sait un peu plus sur le mode opératoire du meurtrier. Le corps de la première victime, une sexuagénaire, a été retrouvé près de l'entrée principale. Elle présentait un égorgement très profond de l'ordre d'une décapitation, a rapporté le procureur de la République. L'assaillant aurait ensuite égorgé mortellement le sacristain de la basilique. Ce père de 2 filles était âgé de 55 ans. La troisième victime, une mère de famille brésilienne âgée de 44 ans, va arriver à s'échapper de l'église. Elle ira se réfugier dans un restaurant à proximité, mais elle succombera à ses blessures. L'assaillant a été interpellé moins de 10 minutes plus tard après avoir perpétré ses meurtres par la police municipale qui a ouvert le feu. L'auteur présumé des faits, un jeune Tunisien de 21 ans dont le pronostic vital est toujours engagé, serait arrivé en France il y a un mois après avoir débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. C'est ce qu'a précisé Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste chargé de l'enquête.
Et c'était Sylvie Coffi pour RFI. En France toujours, le reconfinement a débuté cette semaine avec des restrictions moins draconiennes qu'en mars, mais confinement tout de même. Le but de cette mesure prise par le gouvernement est d'enrayer la propagation du virus et de désengorger les services hospitaliers. Une mesure pas toujours comprise dans le pays comme dans ce petit village du centre de la France.
Coiffeur, restaurant.
Dans la file d'attente de la boulangerie du village de Chabris, ses habitants sont encore sous le choc des annonces.
Macron, il a pris une bonne décision. Par contre, la deuxième vague, là, les commerces vont fermer, la maison de la presse, les restaurants, les cafés, ça va être compliqué. Hein. Ça, l'économie, elle va se casser la gueule. Hein. Même ici, hein, puis les chômeurs et tout, la misère, ça va être une catastrophe.
Et comme tout le monde, Eric va reprendre l'habitude des attestations de sortie.
Pour faire les courses, tout ça, papier. Il disait un mois, mais à mon avis, ça va être plus.
Les coiffeurs du village commençaient juste à retrouver leur clientèle de début d'année. Alors un deuxième confinement.
Je suis déçu, parce que c'était une punition. Ben, comment on va faire? On va fermer, on n'a pas le choix, hein, ceci dit.
Le président de la communauté de communes, Philippe Jourdain, aurait aimé que les petits commerces, fondamentaux dans les villages, restent ouverts.
Le fleuriste local, l'électricien pour aller chercher un petit électroménager, eh bien ces gens-là vont devoir fermer et les grandes surfaces vont prendre de l'ampleur à nouveau. Et c'est là l'aberration pour nous. C'est dommage, quoi. C'est là que je dis, aujourd'hui, il faudrait prendre au cas par cas les choses.
Des interrogations, beaucoup d'incompréhension, mais les habitants respecteront les règles. Et heureusement, les balades dans la forêt d'à côté seront bien autorisées.
Voilà donc pour ce petit village dans le centre de la France. Une polémique par contre qui enfle autour de ce nouveau confinement, les librairies fermées par les autorités, alors que les grands magasins, elles, ont le droit de rester ouvertes. Eh bien la Fnac et les autres grandes surfaces ont décidé de fermer leurs rayons livres en solidarité avec les petits commerces. Reportage de Carmel Lonsman.
Contrairement au printemps dernier, la Fnac et Darty restent ouverts durant ce deuxième confinement, mais sans la culture. Les quelques 300 magasins Fnac et 500 Darty, considérés comme commerce essentiel, ne souhaitent pas se mettre en concurrence déloyale avec les librairies. Une décision qui a du poids venant du premier libraire de France qui est la Fnac. Dès ce samedi matin, l'ensemble des rayons culture du groupe sera donc fermé pour les 15 prochains jours en attente de nouvelles annonces du gouvernement français. Pas question cependant de fermer tout, car la période des fêtes qui débute constitue l'essentiel des ventes et du résultat de l'enseigne multispécialiste. Des appels à rouvrir les librairies viennent également des rangs politiques, de l'ancien président français François Hollande, de la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore de l'ex-ministre de la Culture Jack Lang. Ils estiment l'accès à la culture comme essentiel, tandis que le critique littéraire François Bunel a créé une pétition en ligne pour rappeler qu'avec la fermeture des librairies, le pays se priverait, je cite, de son meilleur bataillon pour affronter l'obscurantisme.
Et c'était Carmel Landsman pour RFI. La Belgique a également imposé un nouveau confinement partiel dans le but de freiner la propagation du Covid-19. Le gouvernement belge restreint les voyages et les achats, tandis que les contacts avec la famille seront également réduits à un minimum absolu en dehors du cluster le plus proche, et ce pendant les 6 prochaines semaines. Le travail à distance sera également obligatoire quand il est possible. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a déclaré que les restrictions sont essentielles pour minimiser la impact du coronavirus.
Ceci sont les mesures.
These are the measures of the last chance. They're the necessary measures to make the figures decrease. It's now in our hands. It's in your hands. These really are the last chance measures, and it's up to all of us to make sure that they produce a result.
Veillez que ces mesures aient un effet.
13h10, on vote demain en Côte d'Ivoire et la campagne s'est déroulée dans un climat tendu, ce qui fait redouter des violences lors du scrutin. Les explications d'Alexandra Branjon.
Près de 150 incidents jugés critiques ont éclaté ces dernières semaines, selon l'organisation de la société civile Indigo. Des manifestations violentes, des heurts, des affrontements. L'atmosphère est délétère, déplore le coordinateur d'Indigo, Hansen Kanga.
Entre ceux qui n'y croient pas et ceux qui y croient, c'est clair que l'atmosphère est délétère. Et les incidents de ces derniers jours, notamment dans les localités comme Bonoir, au Bongwanou ou encore Dabou, montrent bien que le climat il n'est pas apaisé.
Plusieurs initiatives ont été lancées à travers le pays pour privilégier le dialogue, explique Paul-Emmanuel Bakayoko du NDI, le National Democratic Institute.
Les partis politiques au niveau local qui appartiennent à les communautés aspirent à se parler, aspirent à échanger, mais la difficulté c'est que ces communautés-là sont sujets à des mots d'ordre qui viennent du niveau national. Donc quand on arrive à les mettre ensemble déjà, ils comprennent tout de suite la nécessité de ce dialogue et ça peut réduire le niveau de violence dans certaines localités.
Plusieurs succès ont d'ailleurs été enregistrés, souligne-t-il, Wangolo, Sakassou, où des heurts ont pu être évités grâce à des rencontres entre leaders locaux.
Et c'était Alexandra Branjon pour RFI. Avant de passer aux élections américaines, un détour par la Turquie. Un puissant séisme de 6,7 sur l'échelle de Richter a fait au moins 15 morts et des centaines de blessés en Turquie et en Grèce. Et en Turquie, c'est dans la région d'Izmir, troisième plus grande ville du pays. Anandlor.
C'est une secousse particulièrement violente, comme l'ouest de la Turquie n'en avait pas ressenti depuis des décennies, qui a fait trembler pendant 15 secondes la province d'Izmir à 14h51 heure locale. Les images de bâtiments de plusieurs étages effondrés ou en train de s'effondrer, de nuages de poussière s'élevant dans le ciel et d'habitants paniqués se précipitant dans les rues sont très vite apparues sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux. Les régions de Bornova et de Bayraklı sont les plus touchées. Selon le maire d'Izmir, une vingtaine d'immeubles se seraient effondrés dans la province. La télévision turque a montré des images de blessés sortant des décombres et d'habitants leur venant en aide, en attendant l'arrivée des secours qui ont parfois été retardés par les énormes embouteillages qui ont suivi la secousse. Les secours se poursuivent sous la menace des répliques nombreuses qui ont atteint jusqu'à 4,8 de magnitude. Les autorités appellent les habitants de ces régions à ne surtout pas retourner chez eux. Le séisme a aussi provoqué de très grosses vagues en bord de mer qui ont entraîné des inondations dans les rues de Seferihisar. L'épicentre a été localisé à 17 km au large de ce district qui s'étire sur la côte égéenne.
Voilà donc pour la Turquie, plus que 3 jours avant le Election Day aux États-Unis. Et c'est les derniers jours de campagne et les candidats sillonnent les États. 3 meetings par jour pour les 2 candidats. Le coronavirus s'invite plus que jamais dans la campagne alors que les États-Unis viennent de passer la barre des 9 millions de cas. Anne Corpet.
Un record a été battu ce jeudi avec plus de 91 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations est en hausse et on a repassé la barre des 1000 décès par jour pour la troisième fois depuis le début du mois d'octobre. La pandémie flambe dans 47 États et notamment dans les États clés indispensables à la victoire. Cela n'empêche pas Donald Trump de continuer à organiser de vastes rassemblements populaires sans précaution particulière. Le président américain affirme contre toute évidence que l'issue de la crise est proche. Il peste contre les médias qui continuent d'évoquer les risques posés par le coronavirus. À l'inverse, Joe Biden privilégie une approche très prudente, cible ses attaques sur la gestion de la pandémie par son rival et prévient que l'hiver sera difficile. Il est soutenu par les experts qui appellent à des mesures plus strictes. Ce vendredi, la revue médicale de référence The Lancet a vigoureusement dénoncé la gestion désastreuse de la crise du Covid-19 par l'administration de Donald Trump.
Et c'était Anne Corpet pour RFI. Allez, coup d'œil météo pour conclure ce journal. Aujourd'hui, à Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 18. Hobart, 19. Canberra, 15. Sydney, 26. Brisbane, 31. Cairns, 34. Et Darwin, du soleil, est 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, pour ce 31 octobre. Certaines frontières intérieures vont réouvrir en Australie, notamment avec l'Australie occidentale. Le Queensland, par contre, fait toujours le bras de fer avec le Greater Sydney. À la suite de l'enquête sur l'attaque terroriste à Nice, un deuxième homme a été interpellé. Et on vient de l'entendre, J-3 pour les élections américaines. 13h15, courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour un journal des sports un petit peu spécial. Tout de suite après ça.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Journal des sports un petit peu spécial, je vous le disais il y a quelques instants, on va faire un coup de projecteur sur une future star normalement du sport français. Il s'appelle Sacha Zoya. Et pourquoi on fait un coup de projecteur sur lui ? Eh bien parce qu'il est franco-australien, il est né en Australie et il a grandi en Australie occidentale à côté de Perth. Rencontre avec donc cette peut-être future petite pépite de l'athlétisme français, Sacha Zoya.
Il n'avait pas l'air plus impressionné que ça à la conférence de presse du centenaire de la Fédération française. Sur le toit à terrasse du Grand Théâtre d'Albi, Sacha Zoya était assis à la table de Kevin Mayer et Mélina Robert-Michon, encadré par Jean Galfion et Marie-Josée Pérec, quatre figures de l'athlétisme bleu, tous des champions ou vice-champions olympiques. À 18 ans, avec ses cheveux décolorés, son air tranquille et son regard direct, le jeune homme était à l'écoute.
J'ai écouté bien les histoires qu'ils étaient en train de parler, tous les grands champions à côté de moi. Et dans ma carrière, je vais être comme eux en fait. La conférence de presse de 200 ans, un truc comme ça, je vais être au même place que eux, en train de parler de ma carrière et donner les expériences à ceux qui sont plus jeunes.
Si la fédération a assis Sacha à la table des champions, c'est parce qu'il n'y a pas plus vendeur pour une vitrine, il n'y a pas mieux pour incarner l'avenir. En 2019, il a battu 3 records du monde chez les cadets, sur 60 mètres haies, 110 mètres haies et aussi au saut à la perche avec 5 mètres 56. Sprinter, hurdleur et perchiste prodige, de quoi bluffer même une triple championne olympique comme Marie-Josée Pérec.
Ce que fait Sacha, ça m'intéresse beaucoup parce que ce gamin, il est extraordinaire. Quoi. C'est, euh,
C'est une vraie pépite.
Sur plusieurs disciplines en plus.
Exactement. La perche, il est sur les haies, voilà. Il est vraiment impressionnant.
Dans votre bouche, quand vous dites pépite, c'est un mot qui pèse quand même. Vous n'avez pas dû dire ça souvent de beaucoup d'athlètes.
Alors je dirais, des comme lui, j'en ai jamais vu auparavant. Voilà, donc c'est clair.
Le surdoué n'a pas encore choisi la discipline dans laquelle il s'engagera dans les compétitions à venir. Il a fait des séances avec Philippe Dancos, l'entraîneur de Renaud Lavillenie. Depuis un an, il est coaché pour le sprint et les haies par Ladji Doucouré et Dimitri Demonière. Mais Sacha Zoya se laisse un peu de temps avant de choisir son chemin.
C'est sûr, dans pas longtemps, j'ai besoin de faire un choix de quelle discipline je vais être spécialiste. Mais pour l'instant, je sais pas trop. Je vais attendre jusqu'à le dernier moment pour m'appliquer à une épreuve ou deux épreuves si je peux, mais c'est sûr que je ne peux pas continuer les trois à très haut niveau.
En janvier dernier, Sacha Zoya a déjà fait un choix majeur, celui de défendre les couleurs de la France. Un choix parmi trois possibilités. La France, donc, pays de sa mère, qui est auvergnate. L'Australie, le pays où il est né, à Perth, et où il a passé la plus grande partie de sa vie, on l'entend à son accent. Et enfin, le Zimbabwe, le pays de son père, un professeur de musique qui enseigne aussi en Afrique du Sud. Sacha Zoya est un métis qui se voit comme le produit de différentes cultures.
Moi, je me trouve pas que français, pas que australien ou pas que zimbabwéen. Je me trouve partie de tous les trois pays. Et dans ma vie, quand je tiens ma vie, c'est vraiment, je montre que j'ai mes trois pays dans ma cœur. Et quand je vis ma vie, je montre autant d'amour à la France que je tiens à l'Australie et que je donne à Zimbabwe aussi.
L'Afrique est présente dans votre manière de vivre tous les jours, vous pensez ?
Ouais, bien sûr. Mon père, il est zimbabwéen. Je le pars tout le temps. En fait, il me demande de passer mes anciens vêtements, des affaires, donner à lui, comme ça il peut partager avec les gens de Zimbabwe. Alors, moi, je fais ça avec tous mes anciens vêtements. Comme ça, je peux toujours montrer que dans mon cœur, je suis toujours zimbabwéen. Et je montre que j'ai l'amour pour ce pays toujours.
Vous y êtes allé ?
Ouais, quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, en Sud-Afrique et Zimbabwe. Et c'est quelque part où je veux bien retourner. Mais avec ces temps-là, c'est dur à retourner de ce pays et passer du temps. Parce qu'avec les entraînements, les cours que je fais, c'est un peu dur d'y aller. Mais c'est sûr que je veux passer beaucoup de temps là-bas en fin de carrière ou quand j'ai du temps.
Alors vous avez dû choisir entre France et Australie. La France, pourquoi ?
Ma mère, elle est française et en Australie, j'habite avec ma mère. Parce que mon père, il travaille en Zimbabwe, en Afrique du Sud. Alors, parce que j'étais élevé par une mère française, j'ai beaucoup de caractéristiques qui sont français. Alors, dedans, je me sentais plus français que les autres, juste parce que j'étais élevé par une mère française. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la nationalité française, pour la donner plaisir et parce que aussi je me sens français.
On le voit déjà comme un grand champion, peut-être l'une des stars des JO de Paris en 2024. Il ne refuse pas tout ce qu'on lui promet. Il dit simplement, plus il y a de concurrence, plus il y a d'enjeux, meilleur je suis.
Rubrique rétrospective, nous sommes le 31 octobre, direction l'année 1512. Il y a donc plus de 500 ans, au Vatican, à Rome, les fresques et peintures de la chapelle Sixtine de Michel-Ange étaient inaugurées. C'est notre rétro avec un fil rouge, des passages du documentaire Michel-Ange, une vie de génie.
La chapelle Sixtine, près de la basilique Saint-Pierre. La chapelle des papes. Le pape donne l'ordre à Michel-Ange de représenter les 12 apôtres sur la voûte de la chapelle. Lui, le sculpteur inexpérimenté en matière de peinture, doit peindre des fresques situées à plus de 20 mètres de hauteur. Et qui plus est, dans une nef de 40 mètres de long.
On voit qu'il y a la main d'un sculpteur derrière ce pinceau. Donc, il rend toutes ces formes extrêmement arrondies. On voit parfaitement qu'il y a une sculpture derrière cette peinture.
Michel-Ange a beau protester, rien n'y fait. Il ne peut se dérober à l'ordre péremptoire de Jules II. C'est Sixte IV, l'oncle de Jules II, qui a fait élever la chapelle, qui sert de siège du conclave lors des élections papales. Un lieu à la fois maison de Dieu et forteresse. Des soldats sont cantonnés dans les fortins au-dessus de la voûte que Michel-Ange doit décorer. Le défi est quasi surhumain. Il s'agit de recouvrir plus de 1000 mètres carrés de plafond. Michel-Ange commence par faire dresser des échafaudages.
Si le sculpteur Michel-Ange se lance dans la peinture de la chapelle Sixtine, c'est là encore par la volonté de Jules II. Le pape est fasciné par le talent du jeune homme, mais leurs relations sont orageuses et il met plusieurs années à le convaincre.
Le pape ordonne à Michel-Ange « Tu me peindras la voûte de la chapelle Sixtine ». Michel-Ange refuse. « Je suis un sculpteur, pas un peintre. Ce n'est pas mon métier de jouer du pinceau. » Mais le pape ne veut pas entendre raison.
Et Michel-Ange doit céder. Il s'attaque alors à la plus grande peinture jamais réalisée. Pendant 4 ans, il travaille seul en haut de son échafaudage, dans un prodigieux corps à corps, avec un sujet qu'il réinvente totalement, la création du monde.
Il doit représenter pas moins que la Genèse, une histoire de damnation et de pardon, de douleur et de rédemption. Au bout de 3 mois, la fresque du déluge est achevée, une composition grandiose de la terreur. Mais Michel-Ange remarque bien vite qu'il s'est éparpillé. Ses 61 figures réparties sur le panneau de 7 mètres de long sont à peine visibles à 20 mètres de hauteur. Michel-Ange prend une décision. Il recouvrira les arcs de voûte de géants. Ces prophètes de l'Ancien Testament, figés dans des mouvements dramatiques, font 4 mètres de haut.
On retrouve des sculptures qui sont dans les musées du Vatican. On retrouve, dans certains des nus en particulier, le torse de Belvédère. On retrouve le Laocoon sur certains détails. Donc il essaye de réaliser la même chose en 2 dimensions. Et en fait, cette façon de faire a fait en sorte que ces peintures donnent ce résultat, qui est un résultat unique au monde absolument.
Le maître vit avec ses assistants dans le dénuement le plus complet. Après le dur labeur, une soupe claire constitue l'unique repas. Michel-Ange tombe fréquemment malade. La peur hante l'homme et son œuvre. La crainte de l'échec le poursuit. Arrivera-t-il à terminer le gigantesque ouvrage? Sans compter que le pape le presse de plus en plus. Peu avant de le mettre au monde, sa mère a été victime d'une chute de cheval. Le choc aurait-il provoqué un traumatisme chez l'enfant, comme certains psychologues le prétendent? Michel-Ange vient d'avoir 6 ans quand sa mère meurt. L'enfant solitaire deviendra un homme agité.
Vous savez comment la Bible parle de la création de l'homme. Dieu prend de la terre, la pétrit et modèle un petit personnage, puis il insuffle son esprit et crée ainsi l'homme. Pour Michel-Ange, l'homme existe déjà. Il est déjà créé. Dieu arrive ainsi dans une espèce de cercle de feu, accompagné des anges. Il allonge sa main sans toucher celle d'Adam, tendue vers lui. C'est de ce contact électrique, pourrait-on dire, que naît l'homme. Qu'Adam reçoit son âme et son destin, immortel.
Un an déjà que les hommes travaillent d'arrache-pied, et ils n'ont peint que 300 mètres carrés. On raconte que le maître aurait un beau jour fermé la porte à ses assistants, car il était mécontent de leur travail, et achevé seul son œuvre grandiose. Est-ce une rumeur répandue par l'artiste vieillissant pour que la postérité le reconnaisse comme seul auteur de ses œuvres? L'étude de ces livres de contes contient peut-être la réponse.
La voûte de la chapelle Sixtine a été peinte par Michel-Ange seulement. Ce qui nous permet de l'affirmer, ce sont ces livres de comptes, car ils précisent généralement comment était dépensé son argent. Et on n'y trouve jamais mention de sommes versées à des assistants professionnels qui auraient demandé des salaires assez conséquents.
Il a fallu 2 années de travail forcené pour peindre les 400 premiers mètres carrés de la voûte. Il n'en faudra qu'une seule pour recouvrir les 600 restants. Michel-Ange s'attaque à présent à une pièce centrale du programme, la création d'Adam. L'une des œuvres d'art parmi les plus copiées et les plus célèbres.
Avec la voûte de la Sixtine, quelque chose de radicalement nouveau a bouleversé l'histoire de l'art en Italie et en Europe. Après la voûte de la Sixtine, rien n'a plus jamais été comme avant.
L'artiste grincheux n'était pas dénué d'un humour volontiers mordant et sarcastique. D'aucuns pensent que le maître aurait parsemé son œuvre d'allégories et de messages cachés. En homme de la Renaissance, Michel-Ange pensait que l'intellect aussi était d'origine divine. Novembre 1512. Le pape et les autres visiteurs trépignent d'impatience. Ils vont enfin découvrir l'œuvre, tout juste achevée. Devant leurs yeux se déploie l'une des compositions picturales les plus impressionnantes jamais créées. Constituée de 150 scènes et de 343 figures, l'artiste, qui se voulait exclusivement sculpteur, se révèle être l'un des plus grands peintres de son époque.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'était donc Jeanne Birkin avec les Jeux interdits qui fait partie de notre sélection du mois de novembre qui débute demain. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler des backpackers en Australie. Tout de suite après ça.
Agriculteurs cherchent backpackers désespérément. L'Australie arrive tout doucement en été et en cette année de coronavirus, c'est la panique dans les fermes australiennes. Les agriculteurs manquent cruellement de bras cette année, alors que la saison des récoltes de fruits et de légumes va bientôt battre son plein. En temps normal, l'essentiel du travail est assuré par des étrangers, en particulier des jeunes backpackers en visa vacances-travail. Mais les frontières de l'Australie étant fermées depuis maintenant plus de 6 mois, leur nombre s'est considérablement réduit. Contre environ 140 000 l'an dernier, ils ne sont désormais plus que 70 000. Et ce sont aux agriculteurs, qui emploient jusqu'à 80% d'étrangers pendant les récoltes, à qui il manque le plus. D'après Ben Rogers, le directeur général de la National Farmers Federation, la plus grande interprofession d'agriculteurs en Australie, il manque autant de personnel dans les fermes australiennes qu'il n'y a d'habitants dans une ville comme Alice Springs.
With the borders closed down and new backpackers coming into Australia, we're suffering critical workforce shortages. And we've got some studies which suggest that we'll be needing upwards of 26,000 workers by the middle of the harvest season in January, February.
Alors ce que la NFF demande, c'est tout simplement que le gouvernement relance le programme vacances-travail, au moins partiellement.
So what we're hoping the government will agree to explore is a restart of the working holiday maker programs. So that's what's colloquially called the backpacker programs. And what we're looking at is a very controlled, a very gradual restart. We propose 3 stages, and the first stage would be highly regulated. It'd be people coming in from countries where there are lower infection rates, ideally lower than Australia, but anyway, under control. There'd be a quarantine period, there'd be testing, there'd be contract tracing, and there'd be effectively a sponsored employment situation for around about 3 months. And then if that program proves to work and there are no failures and no problems, then we'd like to see a gradual opening up, and we've put to the government a proposal about how that might work.
Le gouvernement australien a pour sa part remis en place un visa spécifique pour les habitants du Pacifique, mais il ne permettra pas à lui seul de combler tous les besoins de main-d'œuvre dans les fermes. Et puis le Premier ministre Scott Morrison a également appelé les Australiens qui auraient perdu leur emploi au cours des derniers mois à aller travailler dans des fermes. Mais malgré la hausse du chômage, passée de 5% avant la pandémie à environ 7% aujourd'hui, très peu d'Australiens se sont manifestés. D'après une étude commandée par les agriculteurs, seulement 8% des candidatures pour du travail en ferme entre mars et juin ont été envoyées par des Australiens. Alors pourquoi un tel désamour ?
We're relatively confident it's not a question of the money they can make, because we know that a really hard worker on a farm can make really good money. Some growers say they pay $2,000 to $3,000 a week to their workforce, their best workers. So it's not money. Part of it is remoteness. It's just a lot of these farms are outside the big cities, and people don't want to live away from the big cities. It's been just a historical move away from the regional centres. So that's part of it. It is hard work. We don't shy away from that. You know, it's solid days pay for a solid day's work, but it is hard work. It's out in the sun. It's out in the weather. You know, you get wet, you get hot. So there's those sorts of considerations as well. And when you're talking about people who have lost their jobs now, well, they've probably got families. They've got support networks in the town, so that they're not prepared to pull up stumps and go and live in a hotel or caravan park for, you know, sort of 3 months.
Des conditions qu'on est sans doute plus disposé à accepter quand on est déjà tout seul en route pour voyager pendant plusieurs mois à travers un pays à l'autre bout du monde. En revanche, payer en plus de son visa et de son billet d'avion pour sa propre quarantaine à l'arrivée Pas sûr que cela motive beaucoup de candidats. Mais pour ça aussi, Ben Rogers a une solution.
When the backpackers come into country, the Australian law requires the employer to set aside a small portion of their wages to go into a super fund. And then what very often happens is when the worker leaves the country, they can access that money, but they don't think about it, they forget about it, and it tends to just be absorbed back into consolidated revenue, which is the government's money. So we're saying, well, how about we use that money to pay for the cost of the quarantine?
Reste maintenant à savoir si le gouvernement retiendra cette proposition qui, comme le rappelle Ben Rogers, ne bénéficierait pas seulement aux agriculteurs.
This is not just a solution for farmers, it's also a solution for a really struggling tourism industry as well. We've got to remember the backpackers are basically they're here for a holiday, they're not here to work. This is not a working visa. So those tourism operators, they're really, really struggling right now. So this is sort of an answer to their prayers as well. That's why we've teamed up with BICEP to put this proposal to government.
À l'exception des Néo-Zélandais qui peuvent depuis la semaine dernière se rendre en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-Méridionale et dans le territoire du Nord, les frontières internationales de l'Australie sont pour l'instant toujours fermées et devraient le rester au moins jusqu'à la mi-décembre.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était Blancas avec l'arrière-saison qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de novembre. Allez, on va parler de nourriture française à disposition en Australie maintenant dans le programme en français.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Eh bien aujourd'hui dans le programme, on a le plaisir de parler à Sandra. C'est la personne derrière quelque chose qui grandit pas mal sur Facebook, s'appelle France at Home. Bonjour Sandra.
Bonjour Christophe, comment ça va ?
Ça va impeccable et puis ça va un peu mieux parce que j'ai mangé des BN ce matin, des BN qui venaient de chez vous, donc c'est bien. France at Home, c'est un business intéressant parce que c'est pour ça que je voulais qu'on se parle, parce que vous importez des produits français, mais vous les vendez via une page Facebook. Facebook a été ultra important pour vous pour développer le business en fait.
Oui, carrément, parce que bon, finalement, j'ai aussi une page aussi à côté, mais qui est liée. Mais c'est vrai que Facebook, c'est ce qui a fait tout démarrer, dans le sens où j'ai beaucoup de contacts au niveau des pages françaises, en fait, dans toute l'Australie. Et puis bon, c'est vrai que tous les gens qui voyagent, tous les Français qui viennent en Australie, ils ont tous Facebook, ils sont tous jeunes, et donc du coup, ils veulent tous, bien évidemment, aussi savoir tout ce qui se passe en Australie. Donc ils peuvent pas tous ensemble. Et puis ce qui fait que moi ça m'a beaucoup aidé, parce que ils voyagent et puis ils parlent de moi partout, donc ce qui fait que mes petites boîtes et mes petits princes, mes petits BN, ils vont partout en Australie, ils partent de Melbourne et ils vont à Perth, à Adélaïde, à Darwin, à Sydney, ils vont partout.
Est-ce que le plus dur, ça n'a pas été de choisir les produits aussi? Parce que le choix a l'air quand même assez intelligent, si je peux me permettre, sur la qualité et sur les produits, sur le choix de produits.
En fait, ce que j'avais fait au début, avant de commencer, en fait, ce que j'avais fait, c'était que donc j'étais allée sur une des pages Facebook de Melbourne, et en fait, j'avais demandé l'opinion de tout le monde. En fait, je leur avais demandé ce qui leur manquait, parce que forcément, je voulais pas apporter des produits qui n'intéressait personne. Donc j'avais fait juste un opinion poll, et puis du coup j'avais donc noté les plus gros produits en fait qui revenaient le plus souvent, et en fait c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis du coup il y a beaucoup de personnes maintenant qui me connaissent et qui simplement m'envoient leurs idées en fait par email ou par message, en me disant ça serait bien d'importer ci, d'importer ça. Et donc du coup je fais de mon mieux en fait pour faire plaisir à tout le monde.
D'accord. On se rend compte aussi que les goûts des Français, est-ce que vous vous rendez compte que c'est des générations, par exemple les plus jeunes veulent tel type de gâteau, les gens peut-être un peu plus vieux, c'est peut-être d'autres types de gâteaux. Vous voyez, il y a une différence dans les générations sur Facebook ?
Non, j'ai en fait plus l'impression qu'on est tous au même point en fait, parce que vu que notre nourriture nous manque en fait j'ai l'impression qu'on est tous au même niveau, dans le sens où par exemple même quelqu'un qui j'ai eu quelqu'un la semaine dernière, je crois qu'elle a à peu près 40-42 ans, elle m'a commandé pareil tous les petits biscuits, et en fait c'est pas parce que elle en veut ou quoi que ce soit, c'est juste que ça lui rappelle son enfance, ça lui rappelle la France, et on est tous, je pense, à ce niveau-là à vouloir avoir des souvenirs de la France, sachant que ça nous manque. Donc il y a pas vraiment de différence, il y a beaucoup de bon, il y a beaucoup de jeunes parce qu'il y a beaucoup de backpackers forcément, mais eux par exemple, ils sont sur tout ce qui est bonbons et puis les choses faciles à cuisiner, tout ce qui est mousseline, conserve et tout ça, parce que c'est facile pour eux à prendre et à voyager. Mais tout ce qui est les résidents, ceux qui sont là depuis pas mal de temps et ceux qui sont un peu plus âgés, ils adorent quand même leurs petits biscuits et tout ça, parce que bah, c'est ce qu'ils connaissent de leur enfance.
C'est le petit plaisir de la vie, comme ça aussi.
Voilà, c'est ça, exactement. Exactement.
Ce qui est intéressant dans le concept, c'est que vous importez vous-même les produits ?
Oui. Alors j'ai commencé au début, forcément, j'ai pas importé moi-même parce que je savais pas si ça allait marcher, forcément. Donc j'y suis allée gentiment, mais doucement. Et puis maintenant, je les importe, oui.
Et ça change les choses, parce que vous avez la décision de pouvoir importer ou pas certaines choses. Est-ce que le problème de la quarantaine pose plus de problèmes que ça, ou est-ce que en fait c'est facilement manageable ?
Non, pas vraiment. C'est pas trop compliqué, dans le sens où tout ce que je vends, je veux dire, il y a encore très 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 peu de produits qui ont besoin d'un permis. Donc tout ce qui est viande et tout ça, forcément là il y a besoin d'un permis. Mais après tout ce qui est biscuits, céréales, conserves, bonbons et tout ça, ça passe sans problème. Donc généralement, bien évidemment ils regardent, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Mais ça pose pas plus de problème que ça, non.
D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler comment vous trouvez justement sur Facebook ?
Oui, bien évidemment. Donc j'ai ma page Facebook qui s'appelle France at Home. Ou sinon vous avez aussi le site internet franceathome.com.au.
D'accord. Ben on mettra tous les détails sur notre podcast. Merci Sandra.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Les horizons dorés. Les horizons dorés.
Et c'était Dany avec Les Horizons Dorés, chanson qui fait partie de notre sélection, encore une fois, musicale pour le mois de novembre. On a vraiment des belles, belles, belles chansons pour vous en novembre. 13h55, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité de ce 31 octobre, certaines frontières intérieures vont être réouvertes en Australie, notamment avec l'Australie occidentale. Le Queensland, par contre, fait toujours le bras de fer avec Sydney, surtout Greater Sydney. On vote d'ailleurs dans le Queensland aujourd'hui. Il n'y a aucun doute que les frontières seront l'un des sujets primordiaux de cette élection. La suite de l'enquête sur l'attaque terroriste de Nice, un deuxième homme a été interpellé. L'assaillant est toujours entre la vie et la mort dans un hôpital niçois. Et J-3 pour les élections américaines, avec le coronavirus qui est invité, bien entendu, au cœur des débats. C'est la fin de notre programme en français sur Radio SBS. Je vous souhaite un bon après-midi à tous, un bon appétit si vous êtes toujours à table. Prochain rendez-vous avec le français, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Lucas, et on vous retrouve la semaine prochaine, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h également. N'hésitez pas à aller sur notre site internet également, sbs.com.au/french. À bientôt et bon après-midi à tous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.